je vais poursuivre mon parcours. Je voudrais aller aujourd'hui au moins jusqu'à aborder une grande question qui traitera de la valeur du temps partiel comme une manière de nouer plusieurs types de problèmes les uns aux autres à partir d'une lecture en 8 perspectives. Mais je vais d'abord poursuivre sur l'exposé que j'ai commencé la semaine dernière. Vous vous souvenez que j'ai traité de la valeur, la propriété d'accident que représentent un certain nombre d'événements, leur anticipation et ensuite la résilience après ces événements. Et il est apparu que le chômage avait deux caractéristiques qui étaient... cette slide n'est pas très... qui était très explosive quand elle se combinait, puisqu'il agit de manière anticipée. Et il est donc plus qu'un événement, il est un facteur de perception profondément temporalisé de la réalité sociale et de la position de la biographie individuelle dans l'ordre et dans l'anomie collective. Mais aussi, deuxièmement, le chômage agit longuement de façon négative. Alors, l'existence du chômage comme une menace ou un risque personnel dont la réalisation effective a été en quelque sorte ressentie subjectivement par anticipation devient non seulement une valeur négative privée, mais aussi une valeur négative sociale ou collective, ce qu'on appelle une externalité négative de grande portée. Je reprends ici une distinction que font mes collègues Cahuc et Zilberberg entre valeur privée et valeur sociale de l'emploi ou de l'absence d'emploi. L'argument est celui-ci. La valeur privée de l'emploi dans une entreprise ou une organisation est représentée par la répartition entre ce que le travail fournit à l'individu en salaire et en propriété non monétaire, cela j'y toucherai un peu plus tard, et d'autre part à l'entreprise en réalisation d'affaires, en marge bénéficiaire et en chances de développement dans la production de biens et de services. Mais cette production agit aussi sur l'activité et le bien-être d'agents économiques, individus et firmes, qui n'ont aucun contact direct avec l'entreprise concernée. C'est ce qu'on appelle donc des externalités positives ou des conséquences positives ou négatives sur l'environnement. On les mesure aisément, on en mesure l'importance dans les phénomènes de création ou de destruction d'emplois aux différentes échelles spatiales, qu'on peut considérer une ville, une région, un pays, bien sûr, une zone économique plurinationale. L'économie géographique s'est beaucoup penchée sur ces questions-là récemment dans des termes à la fois quels sont les impacts des destructions d'emplois, une expérience grandeur nature, c'est la ville de Détroit aujourd'hui aux États-Unis, mais aussi de manière plus subtilement exploratoire pour savoir... quelle est non seulement l'importance de la création de la destruction d'emplois, mais aussi l'importance de la nature des emplois et de leur composition sur les chances de maintien ou non de certains types d'emplois. C'est le thème de la contamination, de la fertilisation d'un tissu économique par la composition très particulière des emplois. J'y reviendrai ultérieurement. En tout cas, ces externalités constituent la valeur sociale du travail et de l'emploi et de ses envers respectifs, chômage et destruction d'emploi. Alors, la mesure monétaire directe de l'écart entre valeur sociale et valeur privée, on peut la calibrer ainsi. Le chômage ou l'inactivité diminue un certain nombre de grandeurs, d'abord les ressources individuelles, bien sûr, mais aussi collectivement, les recettes de prélèvements obligatoires assis sur le travail, les recettes fiscales, et elles augmentent aussi les montants de transferts sociaux qui sont destinés à indemniser les chômeurs ou à actionner les protections de minima sociaux pour les chômeurs qui ne sont pas indemnisés et pour les inactifs pauvres et les travailleurs pauvres. C'est donc là une des justifications, bien sûr, des mécanismes de protection de l'emploi. Il faut remarquer ici que cette externalité négative se comporte tout à fait autrement pour le salarié et pour l'employeur en cas de chômage. Les mécanismes de base de l'assurance chômage sont un financement par une taxe sur les salaires, des cotisations employeurs et salariés, d'ailleurs uniquement dans le secteur privé, en tout cas en France, et deuxièmement une solidarité entre l'ensemble des acteurs du système pour couvrir les coûts engendrés par les décisions négatives, destruction d'emplois et avec entrée des chômeurs en indemnisation, et pour tirer parti, pour ceux qui sont en emploi, de leur situation positive. On en a une illustration assez simple, mais je crois que la slide que je voulais présenter n'apparaîtra pas. Tant pis, je crois qu'il y a un problème de compatibilité avec ce que j'avais fabriqué dans le bilan de l'UNEDIC. On est dans l'actualité puisqu'on a une grosse négociation sur l'assurance chômage comme tous les trois ans. Les cotisations d'assurance chômage assises sur les contrats à durée indéterminée, je vous rappelle que c'est à peu près encore 80 un peu plus de 80% de l'ensemble des contrats existants, créent une situation bénéficiaire puisque ces emplois-là sont peu exposés au chômage et donc les cotisations produisent plus qu'elles n'engendrent d'allocations ou d'indemnisations de chômage pour un écart de presque 12 milliards. En revanche, les contrats à durée limitée sont dans des comptes très très déficitaires puisque ils créent pour 12 milliards d'indemnisations de chômage contre des contributions sur ces contrats-là qui sont de 4 milliards à peu près. L'ensemble des comptes, une fois qu'on a pris en compte le fonctionnement même de tout ce système d'assurance chômage, sont négatifs et de plus en plus avec des dettes cumulées. Donc c'est une des mesures possibles de ces mécanismes, de cette valeur sociale de l'emploi ou de la destruction de l'emploi. Ceux qui bénéficient d'emplois, comme on appelle ça maintenant, d'emplois d'insider, bien protégés, au fond, contribuent à faire exister un système qui pénalise en même temps, mais qui indemnise aussi l'emploi court et l'emploi fragile. Et c'est cet équilibre-là qui est complexe. Et je vais y revenir dans un instant parce qu'on va voir jouer deux mécanismes très différents qui sont d'un côté la protection de l'emploi et de l'autre la plus ou moins grande générosité de l'assurance chômage. En tout cas, une des mesures de la valeur sociale du travail et de sa privation, c'est celle-là, c'est cet écart. Et c'est donc les paramètres de cet écart et de leur négociation qui donnent une idée de ce qu'est la prise en compte collective de la valeur sociale de l'emploi. Que signifie détruire un emploi pour un employeur ? Évidemment, il y a des coûts imputables à ces comptes, des indemnités, des obligations de reclassement, des coûts de procédure en cas de recours des salariés et aussi, bien sûr, des pertes d'expérience et de capital humain spécifiquement incorporé dans l'expérience et dans le travail de quelqu'un avec qui on a noué des liens plus ou moins longs, tout cela étant basé sur l'emploi long, l'emploi court, réduit toutes ces dimensions dans des proportions rapides. Mais il y a évidemment aussi un coût qui est imputé à la collectivité des entreprises et des salariés. C'est précisément celui de ce mécanisme d'indemnisation du chômage des individus qui sont au chômage et celui des non-versements de cotisations à l'assurance chômage sur les postes d'emploi d'un travailleur qui est devenu chômeur. Dans les jeux stratégiques sur la combinaison emploi-chômage, évidemment, il faut toujours garder cet aspect-là en tête. Si je fais alterner mes emplois ou si j'utilise deux types d'emplois, je ne produis pas le même genre de contribution à la valeur sociale collective du travail, puisque je peux me défausser par mes emplois à temps court et à chômage interstitiel ou récurrent long, je peux me défausser de ma contribution à l'assurance chômage. Donc, bien sûr, il y a, comme je l'ai dit, toutes sortes d'externalités négatives associées à la disparition d'un emploi ou au chômage d'un individu. Je prends là le point de vue de l'individu et plus de l'employeur. C'est la diffusion dans son entourage des problèmes que crée le chômage et dans l'environnement, bien sûr. Mais au total, l'appréciation exacte de la valeur sociale d'un emploi ou de la destruction de valeur sociale liée à une perte d'emploi, au-delà de la perte privée, c'est un calcul qui est assez complexe et qui peut donner lieu d'ailleurs à controverses. Mais on peut néanmoins essayer de décomposer l'impact du chômage sur les travailleurs en activité, pas simplement sur les chômeurs, mais je parle là de la valeur sociale et supra-individuelle du travail et de sa perte, en deux catégories d'effets. D'une part, un taux de chômage élevé a des effets négatifs généraux qui affectent toute la collectivité, une fragilisation des relations intergénérationnelles, l'actualité en donne de nombreuses preuves, une dégradation des relations sociales, un arbitrage en faveur de l'épargne contre la consommation qui peut créer une spirale anticipatrice de crise, des effets évidemment sur le niveau des prélèvements sociaux et fiscaux, sur le niveau général d'inégalité par exposition très sélective au risque d'insécurité économique. On sait que de nombreux travaux ont montré que la satisfaction ressentie à l'égard de ces conditions d'existence diminue dans un environnement dans lequel les inégalités économiques s'accroissent. Et puis, il y a aussi les réactions asymétriques à l'égard des dégâts de l'insécurité économique. D'un côté, on verra monter, notamment par une politisation extrémiste du débat, des critiques contre les faux chômeurs, de la part de ceux qui s'estiment sursollicités par les mécanismes de protection et les coûts de financement de la solidarité collective. Mais dans l'autre sens, on verra jouer bien sûr aussi des actions sociales et politiques de mobilisation solidaire contre les dégâts de l'insécurité économique. Ces effets concernent tous les actifs, quel que soit leur secteur d'emploi. Les ressorts même de la conception de l'égalité par identification à autrui, par empathie, par mécanisme de réciprocité sont évidemment ici en jeu. Et donc, nous voyons se dessiner l'envers possible de ce qu'est la valeur du travail comme créateur de socialité et vecteur de redistribution. Deuxièmement, les taux élevés de chômage ont des effets sur la situation présente et future des actifs, considérés dans l'expérience qu'ils peuvent faire directement de l'impact du chômage sur leur situation personnelle, même s'ils ne sont pas eux-mêmes au chômage. Pression sur les salaires, sur les conditions de travail, sur l'augmentation éventuelle des horaires de travail, par exemple par la multiplication des accords défensifs d'emploi contre la réduction, la réduction des avantages liés à la RTT, en tout cas en France. Et ces anticipations, les anticipations des agents, cette variable que j'ai introduite la dernière fois, sont évidemment concernées. Nous avons vu l'interaction entre anticipation et réalisation d'un risque. Elle est d'autant plus importante, cette interaction, que la sécurité d'emploi, c'est le pivot des arguments de la satisfaction du travail à côté de l'autonomie, comme je l'avais dit. Mais les autres effets anticipables touchent évidemment à la carrière salariale, moins d'augmentation possible, moins d'opportunités de promotion, plus de sélectivité concurrentielle dans l'attribution des éléments variables d'un salaire et des chances de promotion et des chances réduites de mobilité professionnelle en cas d'insatisfaction dans l'emploi. Vous avez, quand vous êtes insatisfait, trois possibilités: voice, exit, or loyalty. Loyalty, vous restez. Voice, vous protestez. Exit, vous sortez. Eh bien, quand la pression, évidemment, du chômage est élevée, les chances de sortir dans de bonnes conditions sont moindres. En tout cas, elles sont beaucoup plus sélectives. L'une des manières d'examiner l'impact individuel et collectif du chômage sur la valeur du travail réside dans la comparaison entre les segments du marché du travail. Pour introduire ce point, je voudrais vous présenter successivement les résultats de deux recherches qui examine de deux manières différentes la perception de la sécurité d'emploi. Je m'appuie ici sur une étude réalisée sur les mêmes données que celles que je vous avais présentées la semaine dernière, la même source, cette fameuse source, le panel de données socio-économiques allemandes, qui est un panel très long, dont nous n'avons pas l'équivalent, qui porte ici sur une exploitation de données sur 20 ans, de 1984 à 2004, et qui porte précisément sur la situation allemande, donc, et examine la perception de leur situation personnelle par les individus actifs, selon qu'ils appartiennent ou non à la sphère publique ou à la sphère privée des emplois. L'objectif est de mesurer les différentiels de bien-être subjectif. Alors, l'intérêt de l'enquête, c'est que dans la période considérée, donc 84-2004, en Allemagne de l'Ouest, comme on peut encore l'appeler, mais la réunification est intervenue au milieu, les différences et les fluctuations de taux de chômage régionaux étaient très importantes. Donc c'est une variable qui est une variable instrumentale très précieuse, malheureuse pour ceux qui en sont les victimes, mais précieuse pour le chercheur. Elle variait de 4 à 20%, il variait de 4 à 20%, ces taux de chômage. Donc ces fluctuations permettent aux chercheurs allemands en question, Luschinger, Meyer et Stützer, dans un article paru en 2008, de mesurer, d'identifier les différents facteurs de la sensibilité des individus au chômage, et les données de panel permettent, là aussi, comme je l'avais dit la dernière fois, de contrôler les problèmes d'hétérogénéité individuelle. Le résultat d'ensemble est celui-ci. Les individus qui travaillent dans le secteur privé sont plus fortement affectés par les chocs économiques généraux que les individus qui travaillent dans le secteur public. La diapositive qui est ici vous montre d'abord la relation exacte entre satisfaction à l'égard de ces conditions d'existence et taux de chômage. Évidemment, la satisfaction diminue quand le taux de chômage augmente, elle est très corrélée. Donc, le fait de base est celui-ci. Il est toujours important de percevoir qu'une perception de ces conditions d'existence correspond à une réalité précise, qu'elle n'est pas un simple fantasme. Et donc, on voit bien la corrélation extrêmement forte et très, très en phase, positive ou négative, en fonction du taux de chômage. Donc, le premier résultat est celui-ci. Le deuxième résultat, c'est la variation entre le chômage tel qu'il est perçu par... la satisfaction à l'égard de ses conditions d'existence telle qu'elle est ressentie par les individus dans le secteur privé ou dans le secteur public. Ici, la courbe en noir indique le différentiel entre les individus qui travaillent dans le secteur public et les individus qui travaillent dans le secteur privé. Et ce différentiel est très très corrélé au taux de chômage. L'argument, c'est celui-ci. Donc, il y a une satisfaction déclarée à l'égard de ses conditions d'existence qui décroît très rapidement chez les salariés du secteur privé quand les taux de chômage sont élevés. En revanche, du côté des salariés du secteur public, les réactions aux fluctuations du taux de chômage sont de beaucoup plus faible amplitude. Donc ce que montre cette courbe, c'est que c'est l'essentiellement, elle est portée, le différentiel incorpore l'écart considérable entre les deux secteurs. C'est un point important qui est peu abordé dans le grand livre de Claude Thélot et François de Singly, « Gens du privé, gens du public », qui mériterait une actualisation. Il y a quelques éléments, mais qu'il faudrait aujourd'hui remettre en actualiser, qui permettrait de se faire une meilleure idée de la situation actuelle. Cette satisfaction ou insatisfaction des salariés du secteur privé concernant leurs conditions de vie, la satisfaction diminue de presque plus d'un demi-point sur une échelle qui va de 1 à 10 quand on passe de la région la moins touchée par le chômage à celle qui l'est le plus. L'intensité de variation est presque du même ordre que si on était soi-même concerné par le chômage. Donc vous voyez à quel point ici le différentiel exprime une relation très très différente et dissymétrique entre la valeur personnelle et la valeur collective, ou l'appréciation individuelle et l'appréciation collective de la situation selon le monde auquel on appartient et selon le degré de sécurité de l'emploi dont on dispose. Quand on est dans un système d'emploi où l'insécurité existe par construction, le secteur privé, évidemment, ce qui arrive aux autres vous affecte avec une intensité qui est assez proche de ce qui pourrait vous arriver à vous. C'est aussi, et c'est une autre manière de rebondir sur ce que j'ai dit la fois dernière. Et pour les salariés du secteur public, l'effet négatif est trois fois moindre. Il y a un effet négatif, mais il est trois fois inférieur. Et ces résultats sont obtenus une fois qu'on a contrôlé toutes les différences concernant la structure des salaires, les conditions de travail et les caractéristiques démographiques des enquêtés. Ici, je vous montre l'information suivante. C'est donc l'illustration de ce que j'ai dit. Se sentent très concernés ou non par la sécurité de l'emploi. Ici figure en bleu la courbe des employés du secteur public et en rouge ceux du secteur privé et, comme toujours ici, en pointillé, la courbe du chômage. Donc, l'information est très claire. Tout ça après contrôle statistique précis, l'information est extrêmement claire. On peut évidemment s'interroger techniquement, je ne vais pas rentrer dans cette discussion technique, mais il peut y avoir ce qu'on appelle des biais d'endogénéité, c'est-à-dire les salariés du secteur public ont-ils choisi d'entrer dans le secteur public en raison d'un certain nombre de caractéristiques personnelles et par exemple aussi en raison d'une plus grande aversion à l'égard du risque d'emploi. Des travaux ont cherché à contrôler ce biais d'autosélection je peux en citer un rapidement, mais je ne vais pas m'attarder sur lui. Il concerne l'Ukraine et il concerne les différences de satisfaction à l'égard du travail dans le secteur public et dans le secteur privé. Et pour rebondir sur l'exposé de mon collègue Marc Gurgan de la semaine dernière, le chercheur a disposé d'une expérience naturelle, d'une expérience sociale en grandeur nature, plus exactement, puisque après le démantèlement du système de contrôle collectif de la propriété et la fin du régime communiste, on a affecté un certain nombre de travailleurs aléatoirement entre secteur privé et secteur public. Et donc, il n'y a pas de biais d'endogénéité. Et cette affectation aléatoire, qui était une manière de résoudre le problème de qui doit aller où, on voit dans le travail qu'il a réalisé à quel point la satisfaction à l'égard de la sécurité que procure un emploi public est évidemment très supérieure à celle que ressentent les individus dans le secteur privé. Donc, c'est une manière de répondre à l'argument des biais d'endogénéité. La deuxième recherche sur laquelle je voudrais m'appuyer est un travail qui a été réalisé par mes collègues Andrew Clark et Fabien Postelvinet en 2007, qui s'appelle Job Security and Job Protection. L'étude porte sur la perception de la sécurité de l'emploi par les individus en Europe, interrogés par le panel européen des ménages. Il porte donc sur 15 pays européens. Dans les questions qui ont été faites, figurent des questions qui concernent les éléments de satisfaction au travail. Êtes-vous aujourd'hui satisfait avec votre emploi et avec le secteur où il se trouve en termes de sécurité d'emploi? L'analyse, elle a une perspective différente de celle que j'ai adoptée tout à l'heure parce qu'elle ne met pas cette satisfaction à l'égard de sa situation de travail en relation avec le taux de chômage, mais avec l'indicateur de sécurité de l'emploi qu'a construit l'OCDE, d'une part, et avec un indicateur de plus ou moins grande générosité de l'assurance chômage, d'autre part. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ces indicateurs, les indicateurs que l'OCDE a développés, qui sont des constructions, qui résument beaucoup d'informations en un score, sont des indicateurs, il y en a 21, qui quantifient pour les employeurs et en fonction des règles en vigueur chaque année, premièrement, les coûts et les procédures liées au licenciement individuel ou collectif. Quand il y a des coûts élevés, la protection de l'emploi est élevée. Quand il y a des coûts plus faibles et des procédures moins lourdes, évidemment, la protection de l'emploi est moins grande. Et deuxièmement, les conditions plus ou moins restrictives de recrutement des travailleurs dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de contrats d'intérim. Vous avez ici, encore une fois, c'est l'exercice de lecture d'un graphique, mais enfin, en gris, vous avez ce qui concerne les procédures de licenciement collective et en bleu, les procédures de licenciement individuel et leur sévérité, enfin, les contraintes plus ou moins fortes qui sont mises sur elles. Et les pays sont classés en fonction du taux de contraintes et donc du taux de protection à l'égard de l'emploi en termes de contrôle sur les procédures. Et vous voyez que les pays comme les États-Unis se situent tout à fait à gauche. Plus on va vers la droite, jusqu'ici on a les pays émergents, plus on va vers la droite dans les pays de l'OCDE, plus on va vers des protections élevées de l'emploi. Les pays comme les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Canada ou l'Angleterre, donc les pays à culture anglo-saxonne, comme on dit, se situent évidemment assez bas dans la protection de l'emploi. Les pays européens classiques, l'Allemagne se situe très haut dans la protection contre les licenciements. La Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal. Voilà. Donc on a là, l'Autriche est là, on a là une hiérarchie très précise et la composition interne importe aussi, mais c'est évidemment la distribution qui est très éloquente. Le deuxième graphique concerne donc la régulation des contrats, ce thème qui est lancinant actuellement sur les réformes structurelles et la réforme du marché du travail. Quel est le degré de procédure ou de contrainte procédurale sur l'adoption ou non des contrats courts et les fixed term contracts, les contrats à durée limitée, ici en bleu, et d'autre part les contraintes sur l'emploi temporaire, l'emploi en intérim. Et donc, pareil, vous avez de nouveau cette polarisation, mais avec des effets différents, il y a des variations tout de même. Les pays anglo-américains, anglo-saxons sont toujours à gauche, donc ont les procédures les moins lourdes. Et en revanche, des pays comme la Suède ou l'Irlande se situent aussi du côté des contraintes relativement légères sur les contrats de ce type, comme le Danemark ou l'Allemagne. C'est la fameuse flexicurité, elle est ici présente. Quand on veut un marché qui soit flexicure ou flexisécure, on doit évidemment diminuer les contrôles sur ces types d'emplois, mais on joue sur d'autres paramètres pour offrir la contrepartie de la flexi, qui est évidemment de la sécurité. Et la France se situe à nouveau avec le Luxembourg et la Norvège, se situe tout à fait à droite en termes de protection ou de contraintes très fortes, ou de protection de l'emploi à durée indéterminée et de contraintes très fortes sur l'usage des contrats à durée déterminée et de l'intérim. Il n'y a guère que la Turquie pour la dépasser ici. Voilà les variables. Le problème qui est présenté, qui est important, c'est premièrement, l'insécurité à l'égard de l'emploi, son caractère individuel et collectif est évidemment une préoccupation majeure. C'est le versant concernant la protection de l'emploi. Mais, deux, il y a une frontière de possibilités entre un marché du travail plus dynamique et une réduction de cette insécurité sociale. Le meilleur des deux mondes est difficile. Trois, la doctrine dominante en Europe, en tout cas dans le discours européen supranational, est plutôt moins de législation sur la protection de l'emploi et en revanche des indemnités de chômage suffisamment généreuses. C'est ce thème de la flexi-sécurité qui a d'abord été adopté en Europe du Nord et ensuite en Allemagne et aujourd'hui qui frappe à la porte de l'Europe du Sud et qui est adopté plus ou moins en Europe du Sud. Donc il y a un trade-off entre protection à l'égard de l'emploi et mécanisme assurantiel contre le chômage qui peut être exprimé dans un autre vocabulaire et qui est un vocabulaire essentiel. C'est un conflit de deux positions qui fait écho à ce que j'ai dit précédemment. Les insiders du marché du travail, ceux qui ont déjà un emploi et de bonne qualité, et leurs représentants syndicaux, sont essentiellement en faveur d'une protection de l'emploi qui protège les avantages d'insiders. Alors qu'une politique agissant davantage sur l'indemnisation du chômage favoriserait plus de fluidité du marché du travail et donc favoriserait davantage les outsiders ou diminuerait l'écart entre insiders et outsiders. Quand la jeunesse aujourd'hui proteste contre la trappe à contrat à durée déterminée, alors que le cœur du marché du travail en France, celui des contrats à durée indéterminée, est occupé massivement par les 30-49 ans, on a là une illustration de ce problème et des conflits qu'il crée. Les marchés du travail sont la résultante de ces choix en termes de composition entre main-d'œuvre stable du noyau dur des insiders et main-d'œuvre précaire à l'entrée et à la sortie en âge du marché du travail. Alors, l'analyse de mes collègues consiste à relier les réponses à la question sur la sécurité de l'emploi et le sentiment à l'égard de la sécurité de l'emploi avec les indicateurs construits par le CDE et les indicateurs de plus ou moins grande générosité de l'assurance chômage. Alors, examinons la corrélation entre la moyenne des réponses proposées dans les pays par les individus sur le sentiment de sécurité à l'égard de l'emploi et l'indice de protection de l'emploi, de niveau plus ou moins élevé de la protection de l'emploi. Le sentiment de la corrélation est très claire, elle est négative. Dans les pays où il y a une faible sécurité, un fort sentiment de sécurité de l'emploi, la protection à l'égard de l'emploi est relativement faible, alors que en France, en Espagne, en Italie, en Grèce, et un peu plus loin au milieu en Pays-Bas et en Finlande, mais surtout ici, évidemment, le sentiment à l'égard de l'insécurité ou des risques d'insécurité dans l'emploi est beaucoup plus fort, alors que pourtant l'indice de protection de l'emploi est beaucoup plus élevé. Voilà le premier résultat. Le deuxième résultat examine la relation avec l'indice de générosité, entre guillemets, de l'assurance chômage. Et ici, on a exactement le mécanisme inverse. La corrélation est un peu moins forte, mais on a une relation inverse. Le sentiment de sécurité à l'égard de l'emploi augmente à mesure que l'indemnisation est plus généreuse. Elle est à la fois plus généreuse en termes financiers, mais aussi en termes de mécanisme. Et vous voyez ici pourquoi, à travers la position élevée du Danemark et des Pays-Bas, c'est que l'imbrication entre le fait d'avoir un marché du travail plus fluide veut dire que la flexibilité est non seulement du côté du travail, mais aussi du mécanisme assurantiel. C'est le thème de cette flexi-sécurité. Et du coup, le sentiment de sécurité augmente parce que le caractère stigmatisant du chômage est bien moindre ici et les capacités de rebondir, en quelque sorte, sont plus élevées. Et parce qu'aussi le traitement même de la question du chômage à travers toutes sortes de dispositifs, on en avait parlé la semaine dernière, est très différent. Autrement dit, on ne fige pas la situation en 0 ou 1. 0, c'est chômage, 1, c'est emploi, mais on crée des continuums à travers des mécanismes assurantiels qui augmentent évidemment le sentiment qu'on n'anticipe pas le chômage comme un événement de rupture complet, mais on lui donne évidemment un halo de signification et de probabilité qui est en fait une désignation de transition plus aisée entre les deux états. Voilà le deuxième résultat qui apparaît. Et donc, on peut ensuite examiner les variables qui agissent sur ce sentiment de sécurité. Et je résume ici c'est-à-dire les variables individuelles. L'impact des variables de conditions du marché du travail, quel est le taux de chômage local, de type d'emploi, la quantité d'emplois en CDI, emploi temporaire, emploi permanent dans les différents pays, et puis les variables individuelles classiques, âge, éducation, statut matrimonial, présence d'enfants au foyer, etc. Et voilà les cinq grands résultats qui apparaissent après un certain nombre de contrôles techniques d'autosélection. Les travailleurs, encore une fois, se sentent évidemment beaucoup plus en sécurité dans les emplois publics permanents et le moins en sécurité dans les emplois temporaires. C'est un résultat à nouveau qui paraît banal, mais au moins il a la vertu de renforcer l'argument selon lequel les mesures subjectives de la sécurité en emploi prédisent les éléments objectifs de cette sécurité. Donc je suis à nouveau sur cette question de la relation entre le subjectif et l'objectif. Il y a un grand débat dans la littérature en sciences sociales aujourd'hui sur que valent exactement ces mesures de satisfaction à l'égard de ceci ou cela. Est-ce que c'est du pipeau ou est-ce que c'est de la bonne matière? Eh bien, sur un certain nombre de problèmes aussi fondamentaux que cela, on voit bien que c'est de la matière qui a du sens et qui peut être une ressource très intéressante pour la recherche parce qu'elle permet de faire le lien entre l'objectif et le subjectif dans des conditions suffisamment bonnes. Donc, les évaluations par les travailleurs de leur situation sont correctes. Deuxièmement, le sentiment de sécurité en emploi permanent et temporaire du secteur privé est corrélé positivement avec la générosité de l'assurance chômage dans les différents pays. Et en revanche, il est corrélé négativement avec la protection, comme je l'ai dit. Les emplois du secteur public sont considérés comme les plus sûrs, et la corrélation avec le sentiment de sécurité est à peu près nulle. Les individus du secteur public, c'est un tableau d'une régression logistique. Toutes choses égales par ailleurs, on a à gauche les emplois du secteur privé, au milieu les emplois du secteur public et à droite les emplois en contrat temporaire. Et on examine les coefficients. Le sentiment de sécurité dans le secteur privé diminue évidemment beaucoup avec l'expérience de chômage antérieure, avec ce que j'ai dit, la rigueur de la protection contre le licenciement, et augmente avec le système d'indemnisation du chômage qui est plus favorable et mieux adapté. En revanche, la corrélation est nulle pour le secteur public avec la question de la protection de l'emploi. Essentiellement, ça ne joue pas de rôle. À l'inverse, pour les emplois temporaires, les corrélations sont fortes évidemment avec l'expérience du chômage et avec à nouveau la question de la protection de l'emploi, et elles sont extrêmement fortes avec la capacité du système d'assurance chômage à coller à la réalité de ce que sont ces emplois-là. C'est ça le problème. Et le score est extrêmement élevé, une corrélation de 1,4 est très élevée avec un seuil de significativité excellent. Donc, on a là un vrai fossé entre ces trois mondes qui est perceptible. Ce fossé qui existe dans la perception de la sécurité de l'emploi entre secteur public et autres types d'emplois peut être interprété comme le gain à être un insider. Et en ce sens-là, il déborde la simple sphère publique, mais il y est incarné davantage dans la sphère publique. Ce fossé augmente avec la rigueur de la protection de l'emploi et diminue avec la générosité de l'assurance chômage. Voilà un certain nombre de résultats qui donne une vision évidemment très contrastée de ce qu'est la valeur du travail en fonction du risque de chômage selon le monde où l'on se situe et qui donne une dimension évidemment temporelle très importante à cette perception. Il est évident qu'un système d'emploi dans lequel votre horizon est à risque nul en termes de rupture de la situation d'emploi est un horizon où vous pouvez développer des hypothèses sur le développement de soi, etc., et construire évidemment l'avenir comme un horizon aisément anticipable, alors que la situation n'est pas du même ordre. Et je veux dire aussi toute qualification réunie. Alors que dans l'autre monde, la probabilité du chômage augmente avec les faibles qualifications et donc l'exposition au risque est beaucoup plus sélective une fois qu'on a dit que le risque est de toute façon, par construction, présent alors qu'il ne l'est pas ailleurs. Il n'est pas dans le premier monde. Donc on a là des points essentiels qui sont attestés par la perception subjective par les individus de leur situation. J'ai traité jusqu'à présent de travail et du chômage comme deux catégories qui s'opposent et qui sont séparatrices. Mais j'ai commencé à introduire l'argument qu'il y a en fait un maillage qui peut être plus serré entre les deux états avec des phénomènes d'imbrication qui sont visibles dans le comportement du marché du travail. Eh bien, on peut dire que plus que mes collègues économistes, les sociologues dont je suis sont attentifs aux propriétés de construction sociale et de séparabilité entre ces catégories telles que emploi, inactivité, chômage, à la fois pour indiquer qu'elles ont une histoire et deuxièmement que les qualifications des différents états distincts varient avec les configurations sociales, avec les législations, avec les régimes d'assurance sociale. Je voudrais ici simplement évoquer le point en revenant sur une statistique qui est importante dans le contexte, en tout cas dans le contexte français, c'est cette fameuse distinction entre les chômeurs de catégorie A et les chômeurs de catégorie B et C. Les chômeurs de catégorie A sont ceux qui sont en recherche d'emploi mais qui ne travaillent pas du tout pendant qu'ils sont en recherche d'emploi, et les chômeurs de catégorie B et C sont des individus qui sont en recherche d'emploi mais qui travaillent soit moins de 78 heures en catégorie B, soit plus de 78 heures et moins de, aujourd'hui, 110 heures, mais auparavant c'était un peu plus, donc il faut faire attention dans les analyses longitudinales, tout en recherchant un emploi. Et ici, je vous présente les données qui concernent la statistique sur ces différentes catégories et leur évolution dans le temps. On a là une donnée qui part de 1995 et qui va jusqu'en 2011. Et vous voyez que la part des individus qui sont en activité réduite, comme on dit, c'est-à-dire les catégories B et C, a augmenté de manière considérable. Alors qu'on a au-dessus les allocataires qui ne sont pas indemnisés et qui sont en activité réduite. Donc en bas, ils sont indemnisés et en activité réduite. Au-dessus, ils ne sont pas indemnisés mais en activité réduite. Donc ils travaillent, mais ils recherchent un emploi. Et la ligne verte, c'est celle des allocataires indemnisés sans activité. Donc on a 1,5 million de chômeurs qui sont, en tout cas à la fin 2011, On a 1,5 million de chômeurs qui sont sans activité et qui en recherchent une, les catégories A, et 1,5 million et 1,1 million de chômeurs en activité réduite, indemnisés ou non. Donc vous voyez que la composition du chômage, elle s'est beaucoup transformée. Cette catégorie de l'activité réduite a doublé en 15 ans. Et donc le maillage entre chômage et emploi s'est totalement transformé. Évidemment, l'explication vient en bonne partie de la différenciation et de la multiplication des formules contractuelles d'emploi et du caractère peu dynamique du marché du travail. L'imbrication veut dire que en activité réduite, un individu, un allocataire perçoit 700, en 2011, 755 allocations par mois, qui s'ajoutent à 610 euros par mois de revenus d'activité. Voilà l'équation moyenne de la situation. À titre de repère, les allocataires indemnisés qui n'ont pas d'activité perçoivent en moyenne 1095 euros. Donc on voit bien le gain moyen à combiner les deux situations, par nécessité évidemment, mais aussi par contrainte de la part des employeurs, de l'offre d'emploi, du type d'offre d'emploi, alors que ceux qui sont en activité réduite, donc qui se déclarent chômeurs, mais qui travaillent néanmoins, en tout cas moins de 110 heures, mais qui ne sont pas indemnisés parce que leur activité leur procure trop de revenus pour être indemnisés par le chômage, eux, ils gagnent en moyenne 1560 euros. Vous avez là l'équation. 1560, je travaille beaucoup, mais je suis au chômage, mais je me procure des activités partielles. 1300, je combine, et 1000, je suis sans activités réduites. Je suis un chômeur pur. Cette part d'activité réduite a beaucoup augmenté dans le temps, mais elle a aussi augmenté, elle a frappé différemment. Je vais aller directement ici. Elle a frappé différemment selon l'âge. Vous avez ici la courbe selon l'âge. Vous voyez que c'est la proportion des seniors, et ici, ce sont les jeunes allocataires. 25-49 ans, c'est cette courbe supérieure, et moins de 25 ans, c'est la courbe centrale, et plus de 50 ans et plus, c'est la courbe inférieure. Et vous voyez que le taux de progression le plus rapide, c'est celui des seniors. Donc vous avez ici une équation de comment combiner des situations d'exposition au risque avec le maintien à la frontière du marché du travail. Selon l'âge. Les jeunes, évidemment, sont depuis longtemps, mais de plus en plus, et dans des proportions de progression qui sont un peu inférieures à celles des seniors, les jeunes sont toujours exposés beaucoup plus et combinent davantage ces situations d'imbrication entre chômage et emploi, parce que c'est évidemment l'incidence propre du CDD qui est beaucoup plus forte sur les jeunes, comme un mécanisme à la fois de probation, de recrutement sélectif, de tests à l'entrée du marché du travail et de pénalisation de la sous-qualification initiale des individus qui n'ont pas d'expérience, sans parler des problèmes de composition de la main-d'œuvre entre main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. J'ai d'autres données sur le... Je ne sais pas si elles sont présentes ici... Non, j'ai oublié de la faire figurer. J'espère peut-être revenir plus tard sur ces trois catégories de salariés atypiques qui combinent les trois catégories, ceux qui sont en CDD classique, en quelque sorte, ceux qui sont en intérim et ceux qui sont dans des emplois où on combine beaucoup plus rapidement chômage et emploi, les intermittents. Qui sont ceux qui en appellent le plus à ces mécanismes-là. Pour vous donner une idée, les intérimaires sont 65% à utiliser l'alternance emploi-chômage, en activité réduite. Les intermittents du spectacle sont 83% dans une année donnée et ceux qui sont en CDD sont 45%. Voilà l'équation de notre flexi-sécurité à nous en France. La part d'ailleurs du recours au chômage indemnisable dans l'activité réduite, elle est très fortement concentrée aussi, c'est-à-dire qu'il y a une minorité d'individus qui ont beaucoup plus d'intensité d'aller-retour entre les deux états. 10% des allocataires de l'assurance chômage sont à l'origine de 53% du total des mois d'activité réduite. Donc vous voyez qu'à l'intérieur de ces situations, il y a encore, il faut décomposer, comme toujours, il faut beaucoup décomposer. J'en viens maintenant à la question qu'est-ce qui détermine l'individu à travailler plutôt qu'à ne pas travailler. Et il y a là 6 classes de problèmes que je vais énumérer rapidement. Je vais m'attarder principalement sur le dernier d'abord, mais je vais vous les citer successivement. Il y a premièrement l'étude du rendement, l'analyse du rendement des études, qui constituent une forme de sacrifice du loisir et donc une forme de travail en vue d'un gain ultérieur. C'est un point très important qui peut faire l'objet de nombreuses analyses, notamment si allonger ses études devient à un moment donné un rendement qui décroît au-delà d'un certain seuil ou aussi selon le type d'études qu'on pratique. On sacrifie évidemment de plus en plus de revenus potentiels dans des cas d'études trop longues ou dans des cas d'études qui sont mal appariées avec le marché du travail. Donc c'est une question extrêmement sérieuse qui pèse beaucoup sur la perception aussi qu'on peut avoir les générations, jeunes générations, à l'égard de les études sont toujours protectrices sur un marché du travail tendu. Cette affaire-là est beaucoup plus complexe, évidemment, mais je ne vais pas y venir tout de suite. Il y a donc, deuxièmement, sur cette question du travailler ou ne pas travailler, la question de l'étude des relations et des transitions entre chômage et emploi, basculement involontaire vers le chômage, démission et rupture conventionnelle pour changer volontairement d'emploi, délai de retour à l'emploi en fonction évidemment des capacités de prospection du marché du travail et en fonction des flux d'offres d'emploi situés dans l'enveloppe des choix acceptables ou raisonnables, comme le disent les textes, ou désirables par l'individu, et en fonction des durées d'indemnisation et des délais d'épuisement des droits. Il y a troisièmement le grand problème de l'étude des trappes à inactivité ou à travail pauvre. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard dans l'exposé, mais ça sera la fois prochaine. L'analyse des frontières entre le maintien dans les dispositifs protecteurs d'aide et de solidarité et la valeur incitative des mécanismes de soutien au retour à l'emploi. Ici, pour m'attarder un instant sur ce plan, sur ce point, plus nous déplaçons dans la hiérarchie des niveaux de vie, plus évidemment la question de la désutilité du travail est triplement déterminée. Les emplois peu rémunérateurs sont généralement des emplois de mauvaise qualité. Deuxièmement, l'activité des travailleurs pauvres est assortie de compléments de revenus de transfert, dont certains sont conditionnés par l'exercice d'une activité, plus ou moins soutenue, et ces compléments sont plus ou moins importants, nationalement ou localement. Troisièmement, il y a une frontière entre le maintien dans les dispositifs d'assistance et la recherche active d'emploi. Cette frontière entre les deux devient plus complexe et incertaine, évidemment, en raison de l'imbrication de la flexibilité contractuelle des emplois peu qualifiés et des situations de chômage, avec en complément l'accès aux revenus d'assistance incitatifs ou non. C'était la réforme du revenu de solidarité active. Pour simplement illustrer, non pas expliquer le problème, parce qu'il demanderait une longue série de développements. Je vous ai fait figurer ici la décomposition du revenu disponible des individus par niveau de vie. On va de gauche à droite entre le premier décile, les 10% des individus qui ont le niveau de vie le plus faible, et à droite, les 10% qui ont le niveau le plus élevé, et on regarde comment est composé leur revenu. Et on prend en compte les revenus d'activité. Vous voyez qu'ils composent simplement 30% de ce que sont les revenus dans le décile le plus faible, le premier décile, alors qu'ils composent 76% des revenus dans le décile le plus élevé. Et le décrochage intervient à peu près au centre de la distribution. On est déjà près de 70% dans les 40% pour 60% de la population active, les revenus composent près de 70% des revenus et davantage. Donc on a là, une population qui est effectivement beaucoup plus éloignée, non pas du travail, mais de la valeur, rémunératrice du travail. De quoi sont faits les revenus dans cette catégorie-là ? Ils sont faits beaucoup d'allocations, de prestations, de minima sociaux. Allocations logement et minima sociaux représentent presque 30% des revenus. Les prestations familiales, 12%. Et ici, on a des indications sur les retraites, puisqu'on considère l'ensemble des ménages. Et ils représentent cette proportion-là concernant les pensions et les retraites, c'est-à-dire les revenus de remplacement, elle est assez constante, elle varie assez peu, enfin, elle fluctue un petit peu, notamment vers la classe moyenne, mais elle représente un cinquième des revenus. En revanche, évidemment, les indemnités de chômage sont présentes et représentent 7% des ressources. Voilà le tableau, en quelque sorte, je ne peux pas le détailler beaucoup, mais vous voyez à quel point ces mondes-là combinent différemment les revenus et les ressources. Et la valeur du travail, évidemment, doit être située relativement à ce que sont les autres possibilités et l'intensité de la redistribution et de l'allocation de revenus de transfert. Ces revenus de transfert sont très faibles très vite à partir du quatrième, du troisième et du quatrième décile, mais sont très élevés, évidemment, dans la population qui est pauvre ou qui est dans le revenu, dans le décile le plus bas. Ce point-là est important parce qu'il conditionne évidemment toute la discussion sur ce que veut dire le travail et sa valeur quand on a accès ou non, et conditionnellement ou non, à des sources de revenus et qu'on ne peut pas faire valoir sa qualité individuelle sur le marché du travail. Le quatrième plan d'analyse, c'est celui de l'asymétrie entre le chômage d'insertion des jeunes et le chômage d'exclusion des seniors. Ce dernier, celui des seniors, étant couplé ou non à des dispositifs de retraite anticipée ou de dispense de recherche d'emploi. Vous avez noté que l'une des explications de la progression importante du nombre de chômeurs de longue durée, c'est la proportion de ceux qui sont de plus de 50 ans, qui sont très fortement représentés parmi les chômeurs de longue durée. Cette surreprésentation des seniors dans le chômage de longue durée tient tout simplement aujourd'hui, c'est un effet assez massif, mais tient beaucoup à la diminution ou à la suppression des aides publiques au plan de pré-retraite. Une autre explication tient évidemment à des effets de composition, car l'allongement de la vie active agit sur la probabilité de chômage des seniors. Le cinquième argument, et je vais les détailler tous les six, puis je m'arrêterai, ce sont les arbitrages et les négociations entre les membres d'un ménage sur le choix entre travail, activité partielle, retrait temporaire ou définitive du marché du travail, et évidemment en fonction de la composition du ménage et de la position dans le cycle de vie. Ce point-là, je vais y revenir beaucoup la semaine prochaine, parce qu'il va être question du travail à temps partiel, qui a une incidence considérable sur l'activité féminine et disproportionnée. Le paradoxe extraordinaire de la société actuelle, c'est que les femmes ont des qualifications qui sont en moyenne devenues supérieures à celles des hommes, mais avec une incidence du travail en quantité diminuée ou sous-standard, une incidence qui est beaucoup plus élevée sur les femmes que sur les hommes. La question est de savoir si c'est un résidu d'une évolution très longue avec beaucoup d'inertie et que les choses changeront, ou si ce sont des mécanismes plus structurels, évidemment d'arbitrage entre choix individuels, choix du ménage, présence de la question du travail féminin et de l'éducation des enfants, etc. On va analyser tout ça en détail, je vais analyser tout ça en détail la semaine prochaine, avec toutes les indications dont on dispose pour examiner exactement ce que signifie un travail à temps partiel, avec ses caractéristiques négatives, stigmatisantes, contraintes et parfois aussi volontaires. Un taux élevé d'individus font le choix, mais il faut discuter ce que veut dire la catégorie du choix. Voilà. Et la sixième caractéristique, elle se relie à la cinquième, c'est évidemment la demande qui est émise par le marché du travail de travail non standard, avec une segmentation croissante des temps de travail en quantité variable selon les secteurs, les emplois et les qualifications. Et cet emploi substandard, en quantité réduite, il va nous occuper la semaine prochaine avec un traitement à la fois sur les données et sur les questions essentielles de composition de l'emploi. Aujourd'hui, dans nos économies, il y a une corrélation assez problématique, enfin en termes d'horizon de transformation des marchés du travail, entre la déstandardisation de l'emploi et la polarisation des situations. Autrement dit, le travail se polarise en emplois de bonne et de mauvaise qualité. Les emplois de mauvaise qualité sont de plus en plus des emplois qui sont sécables en quantité. Les emplois de bonne qualité croissent, mais se concentrent aussi sur un certain nombre de secteurs d'activité. Et il y a une corrélation redoutable entre les deux mécanismes. Quelle est la qualité, la corrélation entre quantité et qualité qui devient un problème. La polarisation voulant dire aussi, et ça c'est l'autre élément, et je m'arrêterai sur ce détail, la polarisation voulant dire aussi que les emplois de bonne qualité sont aujourd'hui des emplois qui sont déterminés par leur contenu et leur proximité aux évolutions technologiques. Et ce que veut dire la polarisation, pour finir, c'est, je l'annonce, mais je le développerai, c'est au centre de la distribution que se situent maintenant les problèmes. C'est la fameuse crise de la classe moyenne. Et vous verrez, les données sont assez redoutablement concordantes pour illustrer ce problème, de savoir comment faire société dans un monde où le centre lui-même s'affaisse et la discontinuité du tissu social augmente sous l'effet à la fois des compétitions internationales, des évolutions technologiques et des gestions du marché du travail.